Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Shabbat, page 19, Daf Yud Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Koutach HaBabli Vechol Minei Koutach. Un condiment babylonien nommé Koutach et toutes sortes de condiments Koutach qui sont faits à base de pain abîmé et sont donc ramets, puisque c'est un assaisonnement, ils sont consommés très lentement. C'est pourquoi, Asur Limkor Lamedium Kodem HaPessar, on n'a pas le droit de les vendre à un non-juif 30 jours avant Pessar. Ce temps de 30 jours, c'est le temps où on a fixé qu'il fallait apprendre les lois de Pessar. Et il y a donc une obligation de penser à Pessah pendant ces 30 jours-là. C'est pourquoi, jusqu'à ces 30 jours, on n'a pas l'obligation de se préoccuper de Pessah et on a le droit de le vendre à un non-juif, même si le koutar ne sera peut-être pas consommé jusqu'à l'entrée de Pessah. Mais à partir de cette période-là, on doit se préoccuper de Pessah et c'est pourquoi on n'a pas le droit de vendre ces condiments à un non-juif. Voilà pour le Daf Yutret. Shabbat Daf Yud Tet. On reprend Daf Yud Tet Amud Aleph à la deuxième ligne à partir du haut, les deux points. Tanou Rabbanan, nous avons appris dans une braïta. Notnin mezonot lifnei hakelev bachatzer. On a le droit de mettre de la nourriture devant un chien dans sa cour. Netalo beyatsa en niskakin lo. Si le chien a pris la nourriture et il l'a sortie à l'extérieur, c'est-à-dire dans un lieu public, ça ne nous dérange pas. De même, on a le droit de donner de la nourriture à un non-juif dans la cour. S'il a pris la nourriture et il est sorti à l'extérieur, ça ne nous dérange pas. La Gemara demande, pourquoi cette répétition? C'est pourtant exactement la même chose. Agmar répond, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Le chien, puisqu'il lui incombe de le nourrir, c'est pourquoi on a permis de lui donner de la nourriture, même s'il va peut-être sortir avec. Vehaï l'orami alei, alors que le non-juif, puisqu'il ne lui incombe pas de nourrir le non-juif, on pourrait dire qu'on interdit de lui donner de la nourriture s'il risque de la sortir à l'extérieur. Kamash Malan, c'est pourquoi le Tana, avec cette répétition, nous a enseigné que même s'il ne nous incombe pas de nourrir quelqu'un, si on lui donne de la nourriture, c'est-à-dire on pose devant lui de la nourriture dans la cour, on n'est pas du tout dérangé par le fait qu'il va la sortir à l'extérieur. Tanou Rabbanan, nous avons appris dans une braïta. Lo yaskir adam kelav lenochri be'erev shabbat. On n'a pas le droit de louer ses objets à un non-juif le vendredi, c'est comme s'il lui louait explicitement pour le Shabbat. Tosfot explique que le problème est qu'il reçoit un salaire de Shabbat. Bedalet ou behei mutar, alors que le mercredi et le jeudi, on a le droit de louer ses objets à un non-juif. Kayotsebo en meshalchin igrot beyad nochi be'erev Shabbat. De même, on n'envoie pas de lettre par l'intermédiaire d'un non-juif vendredi. Bedalet ou behei mutar. Mercredi et jeudi, on a le droit. La raison pour laquelle on n'a pas le droit d'envoyer des lettres le vendredi, c'est de crainte que le non-juif ne la livre le Shabbat. Amru alav al Rabbi Yossi à Cohen, ve amrela al Rabbi Yossi à Chassid, shelo nimtzak tav yado biyad nochi meolam. Il a été dit à propos de Rabbi Yossi à Cohen, et certains disent à propos de Rabbi Yossi à Chassid, qu'une lettre écrite de sa main ne s'est jamais trouvée dans la main d'un non-juif, même un autre jour de la semaine. Donc, il craignait que même s'il l'envoie à n'importe quel autre jour de la semaine, la lettre soit livrée le Shabbat. Tanou Rabbanan, en meshalchin igeret biyad nochi erev Shabbat, ela imken kotzetz lo damim. Nous avons appris dans une braïta, on n'a pas le droit d'envoyer une lettre par l'intermédiaire d'un non-juif le vendredi, sauf s'il a fixé le prix du service, dans quel cas on considère que le non-juif travaille pour lui-même, et pas en tant qu'envoyé du juif, puisqu'il le fait que pour obtenir son salaire qui a déjà été fixé. Évidemment, il ne faut pas que le juif lui dise qu'il faut que ce soit livré le Shabbat, mais il lui dit, amène cette lettre quand tu veux, je te paye telle somme. Beit Shammai omrim, kedesh yagia le beto. Beit Shammai disent que c'est seulement si le non-juif a le temps d'arriver chez le destinataire de cette lettre avant Shabbat. Ou Beit Hillel omrim, kedesh yagia le bayit asamoch lachoma. Et Beit Hillel disent qu'il faut qu'il y ait le temps pour que le non-juif arrive jusqu'à la maison qui est proche du rempart de sa ville. La Gemara demande Vehalo katsav, mais pourtant, ici, puisqu'il a fixé une somme, on dit qu'il le fait pour lui-même, et d'après Beit Hillel, il devrait avoir le droit de porter cette lettre, même s'il n'y a pas le temps qu'il arrive jusqu'à la maison qui est proche du rempart de sa ville. Cette question n'est que d'après Beit Hillel, car d'après Beit Shammai, même si c'est un cadeau, comme nous avons vu dans la Mishnah, et c'est donc entièrement que pour le non-juif, on voit que Beit Shammai interdise de transmettre à un non-juif s'il n'a pas assez de temps pour arriver chez lui. Mais la question est d'après Beit Hillel, qui lui considère que si on a fixé un prix pour le service, on considère que c'est pour le non-juif lui-même qu'il le fait, et c'est pourquoi ça devrait être permis même s'il n'a pas le temps d'arriver jusqu'à la maison qui est proche du rempart de sa ville. Amar Rav Shechet, Harika Amar. Rav Shechet répond, voici ce que veut dire cette braïta, à la fin, Vim lo katsav, Beit Shammai omrim ad sheyagia lebeto. Dans le cas où on n'a pas fixé un prix pour le service, Beit Shammai disent qu'il faut que le non-juif ait le temps d'arriver chez le destinataire, ou Beit Hillel omrim, Achi yagia le bayit asamoch lachoma, et Beit Hillel disent qu'il suffit que le non-juif ait le temps d'arriver jusqu'à la première maison qui est proche du rempart de la ville du destinataire. La Gemara demande, Veha amrat reisha ein meshalchin. Mais pourtant, au début de cette braïta, il a été dit qu'on n'envoie pas du tout de lettres par un non-juif le vendredi, même s'il y a le temps pour qu'il arrive à la maison du destinataire ou à la maison qui est proche du rempart de la ville du destinataire. C'est donc une contradiction. La Gemara répond, Lokashia, Hadekvia Bedoar Bemata. Ce n'est pas une question. La fin de la Braïta qui dit que d'après Beit Hillel, on a le droit de transmettre une lettre par un non-juif même le vendredi, s'il y a le temps pour que le non-juif arrive à la maison qui est proche du rempart de la ville du destinataire avant Shabbat, parle du cas où il y a un gouverneur qui est rattaché à cette ville de façon permanente. Le gouverneur faisait aussi office de préposé des postes, ce qui fait que le non-juif ne doit qu'aller trouver le gouverneur qu'il pourra trouver avant l'entrée de Shabbat, et le gouverneur transmettra la lettre plus tard. Il n'y a pas de risque que le messager lui-même doive chercher le destinataire pendant Shabbat. C'est pourquoi on a le droit d'envoyer cette lettre, même le vendredi, s'il y a le temps pour qu'il arrive à la maison qui est proche du rempart de la ville du destinataire, même si on n'a pas fixé de somme pour ce service. Vea de lokvia bedoar bemata. Et le début de la Braïta, qui interdit d'envoyer une lettre par un non-juif tout le vendredi, parle du cas où il n'y a pas de gouverneur rattaché à cette ville de façon permanente. C'est pourquoi on craint que le messager ne trouve pas le destinataire lorsqu'il arrive le vendredi et qu'il aille le chercher pendant Shabbat. Tanu Rabbanan, nous avons appris dans une Braïta. Ein mafligin bisfina pachot mishlosha yamim kodem le Shabbat. On n'a pas le droit de commencer un voyage en bateau moins de 3 jours avant Shabbat. Rashi n'explique pas quelle est la raison de l'interdiction, apparemment des Rabbanan, de voyager en bateau pendant Shabbat. Par contre, les autres interprétateurs donnent plusieurs raisons à cette interdiction. D'après Tosfot, l'interdiction est de crainte qu'on le confonde avec celui qui nage, ce qui est interdit des Rabbanan de peur qu'il ne fabrique une bouée de sauvetage. D'autres pensent que le problème est que les matelots non-juifs font un travail interdit pour lui, le Shabbat. Une autre raison est qu'on craint qu'il n'y ait une situation de danger et qu'il ne soit lui-même obligé de transgresser Shabbat à cause de Pikuach Nefesh. Il ne faut pas se mettre, a priori, dans une situation de Pikuach Nefesh. C'est pourquoi on n'a pas le droit de s'embarquer pendant les 3 jours qui précèdent Shabbat. Ou encore, à cause de l'interdiction de sortir en dehors du Troum en voyageant le Shabbat. D'après ces interprétations, la raison pour laquelle c'est permis les 3 premiers jours de la semaine est parce qu'on n'a pas l'obligation de se préoccuper du Shabbat suivant pendant les 3 jours qui suivent le Shabbat dernier. Une autre raison est qu'on a le mal de mer pendant les 3 premiers jours de bateau, ce qui dérange le repos shabbatique, alors qu'au bout de 3 jours, on est habitué et ça ne gêne plus. Quoi qu'il en soit, si c'est pour une mitzvah qu'on entreprend le voyage, c'est permis, comme on va voir dans la suite de la Braïta. Bamet Barim Amorim, Lidvar Arshut. Ceci est dit si le but de voyage est pour une raison facultative, profane. Aval Lidvar Mitzvah Shapir Dami, mais si le but du voyage est pour faire une mitzvah, on a le droit d'entreprendre ce voyage en mer, même pendant les trois derniers jours de la semaine. Ou posekimo almenat lishbot venoshovet divrei rabbi, à condition qu'il fixe avec le capitaine du bateau de s'arrêter, d'arrêter le voyage pendant Shabbat, et si en fin de compte le capitaine du bateau ne tient pas son engagement et qu'il continue le voyage pendant Shabbat, ce n'est pas de la faute du juif. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, enot sarir, Rabban Shimon ben Gamliel dit, il n'est pas obligé de fixer qu'il va s'arrêter pendant Shabbat, puisque c'est pour une mitzvah. On a tout à fait permis d'entreprendre un voyage en bateau les 3 jours qui précèdent Shabbat. Ou mitzur les sidon, afilu berev Shabbat mutar, et pour entreprendre un voyage court, comme par exemple entre la ville Tsur et Sidon, puisque c'est un trajet d'une journée seulement, même Erev Shabbat, même on a le droit d'entreprendre ce voyage dans tous les cas, même si c'est pour un but profane. Tanu Rabbanan, nous avons appris dans une braïta. En tsarin alayarot shel nochrim, pachot migimel yamim kodem le Shabbat. On n'a pas le droit d'assiéger les villes de non-juifs qui sont des ennemis moins de 3 jours avant Shabbat. Vimitrilo en mafsikin. Mais si ils ont commencé le siège avant, on n'a pas besoin de s'interrompre pour Shabbat. On peut continuer le siège. Vechenaya Shamay Omer, Ad Rideta, Afilu Beshabbat. Et ainsi, Shamay interprétait le verset dans lequel il est dit jusqu'à ce que la ville tombe, même si c'est le Shabbat. Le verset vient inclure que même si c'est le Shabbat que cette ville tombera, on a le droit de continuer le siège. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Nohagin Hayu Vechule. On a vu dans la Mishnah que Rabban Shimon ben Gamliel a dit qu'ils avaient coutume dans la maison de son père de ne transmettre du linge blanc à un blanchisseur non juif que avant 3 jours avant Shabbat. Tania Amar Rabbi Tzadok, Kachaya Minagosh El Bet Rabban Gamliel. Nous avons appris dans une braïta, Rabbi Tzadok a dit, voici comment était la coutume de la maison de Rabban Gamliel. Shehayu notnin klei lavan le koves shlosha yamim kodem le Shabbat. Ils avaient l'habitude de donner du linge blanc aux blanchisseurs non juifs 3 jours avant Shabbat, comme on a vu dans la Mishnah qu'eux-mêmes se conduisaient comme Bet Shammai, et comme le linge blanc met longtemps à être lavé, il fallait 3 jours pour que ce soit certainement prêt avant Shabbat. Utsvoyim afilu be'erev Shabbat, par contre, du linge de couleur, il donnait aux blanchisseurs non-juifs, même vendredi, puisque ça demande beaucoup moins de travail et que ce sera aussi lavé avant Shabbat. Umidivrem lamadnu, shalvanim kashim lekavsan yoter minatsvoyim. Et de leurs propos, nous apprenons que le linge blanc est plus difficile à laver que le linge de couleur. Par conséquent, il doit y avoir un tarif bien inférieur pour le blanchissage du linge de couleur que pour le linge blanc.
Abaye habe yaivle haou mana de tzvia le katsra. Abaye a remis du linge de couleur à un blanchisseur. Amarle kama bayit ilouye. Abaye a demandé au blanchisseur, combien est-ce que tu prends pour ce linge? Amarle kederivra. Le blanchisseur lui a répondu, le même prix que pour du linge blanc. Amarle kvar kidmocha rabanan. Abaye a répliqué, les sages t'ont déjà précédé et ils ont déjà fixé que pour le linge de couleur, on doit prendre moins cher que pour le linge blanc, puisque c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Amar Abaye, Hayman de Yaïv Mana le Katsra. Abaye dit, celui qui remet un vêtement à un blanchisseur, Bemashran Nitivlei ou Bemashran Nishkol Minei. Il faut le mesurer en lui remettant. Et il faut le mesurer lorsqu'on reprend, lorsqu'on récupère l'habit. Dit fait, abcédé de matré. Car s'il devient plus grand, le blanchisseur a abîmé le vêtement, car il l'a étiré. Dit bâtir, abcédé de cavcé. Et s'il est plus court, c'est le blanchisseur qui l'a abîmé, puisqu'il a rétréci à l'eau chaude. C'est pourquoi il faut vérifier la taille du vêtement, à la fois lorsqu'on transmet au blanchisseur et quand on le récupère. Vous avez vu dans la Mishnah, Beshavin Elu Veilu Shetoanin Roule. Bet Shammai et Bet Hillel sont tous deux d'accord qu'on a le droit de charger les poutres du pressoir à huile et du pressoir à vin, même si le jus coule pendant Shabbat. La Gemara demande, Maishna Kulu de Gazru Behu Bet Shammai, quelle différence y a-t-il entre tous les autres cas de la Mishnah à propos desquels Bet Shammai a interdit d'entreprendre un travail avant Shabbat s'il continue pendant Shabbat, ou Maishna Korot Bet Abad Vigule Hagat de Lo Gazru? Et en quoi est-ce que c'est différent les poutres du pressoir à huile et les poutres circulaires du pressoir à vin à propos desquels Bet Shammai n'a pas interdit d'entreprendre le travail avant Shabbat si ça continue pendant Shabbat? La Gemara répond, Hanach dei avid lehu be Shabbat michayev chatat, gazru behu Bet Shammai, erev Shabbat imchashecha. Tous ces travaux-là, du début de la Mishnah, lesquels s'il les faisait pendant Shabbat, il aurait une transgression de Horaïta, il aurait l'obligation d'apporter un sacrifice de chatat. Bet Shammai ont interdit de faire vendredi juste avant l'entrée de Shabbat. Korot Bet Abad v'igule Hagat di yavid lehu be Shabbat lo michayev chatat lo gazru. Alors que les poutres du pressoir à huile et les poutres circulaires du pressoir à vin, lesquelles s'il les faisait pendant Shabbat, il n'y aurait pas de transgression de chatat, comme on avait expliqué dans la Mishnah, puisque ces choses-là ont déjà été broyées avant, c'est-à-dire les olives et les raisins ont déjà été broyés avant, et c'est pourquoi on a le droit, en tout cas il n'y a pas d'interdiction de Raïta de les presser après même le Shabbat, c'est pourquoi Bet Shammai n'ont pas interdit de charger ces poutres avant Shabbat pour que le jus coule pendant Shabbat.
Mantana de chol mide de ati mimeila shapir dami. Quel est le Tana qui pense que toute chose qui a été broyée avant Shabbat et qui coule maintenant d'elle-même, on a le droit de la laisser couler pendant Shabbat? Amar Rav Yossi b'Rabbi Chanina, Rabbi Ishmael hi. Rav Yossi b'Rabbi Chanina a dit, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Ditnan, quand nous avons appris dans une Mishnah de Eduyot, Hashum veha boser veha melilot, de l'ail ou des petits raisins pas mûrs qu'on avait l'habitude d'écraser pour en tirer le jus qui était utilisé en assaisonnement, c'est un jus acide, et des épis pas mûrs qu'on écrasait aussi pour en tirer le jus qui était aussi utilisé en assaisonnement, Sheriskan Mibeodium, qui ont été broyés avant Shabbat, Rabbi Ishmael Omer, Yigmor Micheter Char. Rabbi Ishmael dit, on a le droit de le laisser couler dans un récipient après l'entrée de Shabbat. C'est donc l'avis de notre Mishnah, Rabbi Akiva Omer, et Rabbi Akiva dit...
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Yutet à Moudbet. Lo Yigmor, on n'a pas le droit de laisser couler le jus pendant Shabbat. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar I. Et la Mora Rabbi Elazar, qui est Rabbi Elazar ben Pedat, a dit que notre Mishnah suit l'avis du Tana Rabbi Elazar, qui est Rabbi Elazar ben Shamua. Dit-nan, car nous avons appris dans une Mishnah plus loin, vers la fin de la Maseret. Chalot dvash sheriskan be'erev Shabbat ve'yatsu me'atzman asur. Des gâteaux de miel qu'on a broyés, qu'on a pilés le vendredi, et le miel en a coulé de lui-même pendant Shabbat, le miel est interdit à la consommation le Shabbat même, c'est l'avis du premier Tana, Rabbi Elazar matir, et Rabbi Elazar autorise, puisque les gâteaux de miel avaient été broyés avant Shabbat, il considère qu'il n'y a pas d'interdiction de Horaïta de presser ces gâteaux de miel pendant Shabbat, et c'est pourquoi on a le droit d'utiliser ce miel. Et c'est l'avis de notre Mishnah qui dit qu'on a le droit de laisser couler les olives et le raisin qui ont été broyés avant Shabbat, pendant Shabbat, dans le pressoir. Rabbi Yossi bar Hanina, Maïta Ama, Lo Amar, et Rabbi Elazar. La Gemara demande, comment se fait-il que Rabbi Yossi bar Hanina, qui a comparé notre Mishnah à l'avis de Rabbi Ishmael dans Maseret Edouyot, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu comparer notre Mishnah à l'avis de Rabbi Elazar dans notre Maseret? Amar Lecha, Hatam hu de meikara ochel ul besof ochel. Il te dit, c'est seulement au sujet du miel qui était dès le départ un aliment solide lorsqu'il était dans les gâteaux de miel et qui est resté à l'état solide lorsqu'il coule. Le miel est toujours un aliment solide. C'est pourquoi Rabbi Elazar pense qu'il n'y aurait pas d'interdiction de Horaïta de presser ces gâteaux de miel pendant Shabbat. Mais ce n'est pas une preuve pour notre Mishnah. Alors qu'ici, dans notre Mishnah, à propos des olives et des raisins qui ont été broyés avant Shabbat et qu'on laisse maintenant dans le pressoir, le jus en coule pendant Shabbat, au départ, lorsque c'était à l'état d'olive et de raisin, c'est un aliment solide, et une fois le jus coulé, c'est un aliment liquide. Et ici, on n'a pas de preuve que Rabbi Elazar pense que là aussi c'est permis et qu'il n'y a pas d'interdiction de Horaïta de presser ses raisins et ses olives pendant Shabbat. Rabbi Elazar amar lar, et Rabbi Elazar de répondre, Hashaminanle le Rabbi Elazar, de afilu zeitim ve'anavim namishari. Nous avons pourtant appris dans une Braïta que Rabbi Elazar pense que même les olives et les raisins qui ont été broyés avant Shabbat, on a le droit de les laisser couler pendant Shabbat. Deha ki ata Rabbi Hoshaya miner daa ata ve'aiti matnita beyadei. Car lorsque Rabbi Hoshaya est venu de Nerdaa, il a apporté avec lui une braïta dans laquelle il est dit zeitim ve'anavim sheriskan me'erev Shabbat ve'yatsu me'atzman asurin. Des olives et des raisins qui ont été broyés avant Shabbat, le vendredi, et desquels le jus a coulé de lui-même pendant Shabbat, le jus est interdit. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon matirin, alors que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon autorisent, on voit donc clairement l'avis de Rabbi Elazar qui autorise, même pour des choses comme les olives et les raisins qui étaient au stade d'aliments solides avant Shabbat, ou dans le pressoir, et qui maintenant deviennent à l'état liquide lorsque le jus en est sorti. Rabbi Yossi bar Hanina, du coup la Gemara demande pourquoi est-ce que Rabbi Yossi bar Hanina ne voulait pas apporter la preuve de cette braïta qui a été citée par Rav Hoshaya. La Gemara répond, braïta lo shmi'ale, Rabbi Yossi bar Hanina n'était pas au courant de cette braïta, et de la Mishnah elle-même, de la fin de la Maseret, il n'y a pas de preuve que Rabbi Elazar pense, comme notre Mishnah, que même pour des olives et des raisins, on a le droit de laisser couler le jus pendant Shabbat. La Gemara demande, Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar qui a préféré comparer notre Mishnah à l'avis de Rabbi Elazar ben Shamua, qui a dit à propos du miel qui a coulé Shabbat, ou même à propos des olives et des raisins qui ont été broyés avant Shabbat et desquels le jus a coulé pendant Shabbat, que ce jus est permis. Maïtama lo amar ke Rabbi Yossi bar Chanina. Pour quelle raison est-ce qu'il n'a pas voulu dire comme Rabbi Yossi bar Chanina, qui a comparé notre Mishnah à la Mishnah de Edouyot au sujet de l'ail, des raisins pas mûrs et des épis pas mûrs, que Rabbi Ishmael permet de laisser couler pendant Shabbat à la condition qu'ils ont déjà été broyés avant Shabbat. Amar lecha la vitmarala, Rabbi Elazar te dit, n'est-il pas été dit à ce propos, c'est-à-dire à propos de l'ail, des petits raisins et des petits épis, il a été dit, Amar Rava bar Chanina, Amar Rabbi Yochanan, Bemchusarin dicha dekule alma lo pligé. Rava bar Chanina a dit au nom de Rabbi Yochanan, si l'ail, les petits raisins ou les épis pas mûrs n'ont pas encore été pilés avant Shabbat, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de les laisser couler pendant Shabbat. À ce propos, Rabbi Ishmael aussi est d'accord qu'on n'a pas le droit de les laisser couler pendant Shabbat. Qui pliait Bemchusarin Shrika? Leur discussion n'est que si l'ail, les petits raisins et les épis pas mûrs n'ont pas encore été pulvérisés avant Shabbat. Shrika, pulvérisé, c'est un stade plus fort que pilé. Et les olives et les raisins qui ont été broyés avant Shabbat, qui sont cités dans notre Mishnah, à propos desquels notre Mishnah dit qu'on a le droit de les laisser dans le pressoir pendant Shabbat, quoique le jus en coule pendant Shabbat, ils sont aussi à considérer comme s'ils n'avaient pas encore été pilés avant Shabbat. Et à ce propos, Rabbi Ishmael serait donc aussi d'accord avec Rabbi Akiva, qu'on n'a pas le droit de les laisser couler pendant Shabbat. C'est pourquoi Rabbi Elazar ben Pedat a voulu absolument apporter la preuve de Rabbi Elazar ben Shamua, qui lui parle aussi de raisins et d'olives qui ont été broyés avant Shabbat, et ça suffit pour laisser couler le jus pendant Shabbat. Hora Rabbi Yossi bar Chanina ke Rabbi Ishmael. Rabbi Yossi bar Chanina a tranché la halakha comme Rabbi Ishmael, qu'on a le droit de laisser couler ce qui coule de soi-même pendant Shabbat. Dans le passage suivant, la Gemara va toucher un des sujets importants de Maseret Shabbat, le sujet du Mouktsé. Ce sont les choses indisponibles qu'on n'a pas le droit de bouger le Shabbat. Il est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on n'a pas le droit de toucher du Mouktsé le Shabbat, mais c'est une erreur, car l'interdiction n'est que de bouger le Mouktsé, ou en hébreu, tiltoul. Les seules fois où on n'a pas le droit de toucher, c'est quand on craint que ça ne bouge à cause de notre toucher. Le mot Mouktsé signifie « mis à part » et ça englobe tout ce qui n'était pas préparé à l'utilisation pendant Shabbat. Il y a à ce propos une discussion fondamentale entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qu'on retrouvera presque chaque fois que le sujet est soulevé. C'est dit en ces termes, Rabbi Yehuda pense qu'il y a la notion de Mouktsé et Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de Mouktsé. Ou, en araméen, Rabbi Yehuda itle Mouktsé, Rabbi Shimon letle Mouktsé. A priori, on a l'impression que pour Rabbi Shimon, la notion de Mouktsé n'existe pas du tout. Mais, comme on verra plus tard, cette règle a de nombreuses exceptions. En réalité, cela signifie que pour Rabbi Shimon, il faut que l'utilisation de ces choses soit écartée de notre pensée de façon plus intense pour qu'elle soit considérée Mouktsé. Alors que pour Rabbi Yehuda, tout ce qui n'est pas prêt à être utilisé le Shabbat est Mouktsé. On va voir dans notre Gemara plusieurs exemples de choses qui dépendent de cette discussion. Shemen Shel Badadin, l'huile qui appartient au propriétaire du pressoir à huile. D'après Rashi, c'est l'huile qui s'est réfugiée dans les recoins du pressoir et qui appartient au propriétaire du pressoir. C'est-à-dire, lorsque les gens viennent presser de l'huile, presser des olives dans un pressoir, ils récupèrent l'huile, mais ce qui reste dans les recoins appartient au propriétaire. Au Marcelot Shel Badadin, et les nattes des propriétaires de pressoirs, ce sont les nattes qu'ils utilisent pour couvrir les tas d'olives. Rav Assar, Rav interdit cette huile et ces nattes il les considère mouktsé, indisponibles. C'est donc comme l'avis de Rabbi Yehuda, où Shmuel chari et Shmuel autorise. Alors, cette huile est considérée comme indisponible puisqu'on ne savait même pas qu'il resterait de l'huile dans ses recoins, ou en tout cas, on n'y pensait pas vraiment. Et ces nattes, puisqu'elles sont employées pour une chose qui est interdite le Shabbat, pour le commerce, pour le travail, c'est interdit d'après Rabbi Yehuda, et ici d'après Rav, et Shmuel autorise. Hanekaché des Ouzé, les paires de nattes qui servent à couvrir la marchandise dans le bateau, Rashi explique qu'on employait deux nattes à la fois, qu'on disposait comme une tente. Rav Assar ou Shmuel Shari, Rav interdit en tant que Mouktse, donc de nouveau comme Rabbi Yehuda, et Shmuel autorise comme Rabbi Shimon. Amar Rav Nachman, Rav Nachman a dit, Ez lechalava, une chèvre laitière. Il s'agit ici d'un jour de fête, Yom Tov, pendant lequel on a le droit d'égorger des animaux pour les consommer le jour même. La question est de savoir, est-ce qu'une chèvre laitière qui n'était pas destinée à être égorgée, est-ce qu'on a le droit maintenant, le jour de fête même, de changer d'avis et l'égorger, ou alors elle est considérée comme mouktsé, indisponible, on n'a pas le droit de l'égorger le jour de fête. Verachel le gizata, et de même une brebis qui était destinée à être tondue, il s'agit toujours d'un jour de fête, la question est de savoir est-ce qu'elle est mouktsé ou pas. Vetarnegolet le besata, et une poule pondeuse qu'on voudrait maintenant égorger un jour de fête. Veturé de ridia, et des taureaux laboureurs qui n'étaient pas destinés à être égorgés et maintenant on veut changer d'avis le jour de fête même. Vetamré de iska, et les dattes qui étaient destinées au commerce. Ce sont des dattes qu'on avait l'intention de transporter au loin pour les vendre. La question est de savoir, Yom Tov, un jour de fête, ou alors Shabbat, est-ce qu'on considère ces dattes comme mouktsé ou pas? Rav Assar, Rav interdit, toujours comme Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar Moutar, et Shmuel autorise, il dit que ces choses-là ne sont pas considérées comme mouktsé. Et maintenant la Gemara explique que Rav et Shmuel discutent la même discussion que Rabbi Yehuda, c'est Rav qui suit l'avis de Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon, c'est Shmuel qui suit l'avis de Rabbi Shimon. Ha'u talmida de ori becharta de argiz ke Rabbi Shimon. L'élève qui avait enseigné, qui avait tranché la halakha dans une ville nommée Charta de Argiz, comme l'avis de Rabbi Shimon. Shamte Rav Amnuna, Rav Amnuna l'a excommunié, puisqu'il avait décidé comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'il avait autorisé le Mouktsé. La Gemara demande, Vehak et Rabbi Shimon, Sviralan, mais nous-mêmes pensons pourtant comme Rabbi Shimon. On verra dans la Gemara plus loin que la Gemara tranche la halakha comme Rabbi Shimon. Comment se fait-il que Rav Amnuna a excommunié celui qui avait tranché la halakha comme Rabbi Shimon? La Gemara répond, Beatré de Rav Ave, Loi Baile le Mevad Achi. Puisque cette ville nommée Charta de Argiz est dans la contrée de Rav, il ne devait pas agir ainsi, il ne devait pas trancher la halakha comme Rabbi Shimon dans la contrée de Rav, alors que Rav a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda. Hané Tre Talmidei. Il y avait deux élèves qui agissaient différemment au sujet de sauver de la nourriture d'un incendie pendant Shabbat. On verra dans la Gemara beaucoup plus loin qu'on a le droit de sauver de la nourriture d'un incendie seulement ce qui est nécessaire pour les trois repas du Shabbat et pas plus. Pourtant, il y a une exception. Si il y a de nombreux aliments qui sont dans le même récipient, on a le droit de sortir un récipient qui contient même 100 miches de pain. Alors, à ce propos, ces deux élèves discutaient. Chad Matsil Bechad Mana, l'un des élèves sauvait de la nourriture, même s'il y en avait beaucoup, seulement si c'était dans le même récipient, dans un seul récipient. Bechad Matsil Bearba Bechamesh Mane, et l'autre sauvait de la nourriture, c'est-à-dire sortait de l'incendie une grande quantité de nourriture, même si c'était dans 4 ou 5 récipients, qu'il rassemblait dans un grand objet, Vekamifligé beplukta de Rabba Barzavda veRavuna, et ses deux élèves discutaient la même discussion que Rabba Barzavda et Ravuna plus loin. C'est donc la question de savoir, est-ce que si on rassemble plusieurs récipients dans un grand récipient, on considère qu'il a tout sorti dans un seul récipient, ou alors qu'il faut que la nourriture elle-même soit posée dans le grand récipient. La Mishnah suivante. En tzolin basar batzal ou beitza. On n'a pas le droit de mettre à rôtir de la viande, de l'oignon ou de l'œuf, vendredi après-midi, pour que ça rôtisse pendant Shabbat. Et là, kedeishi yitzolou mi beodium, sauf s'il y a assez de temps pour qu'il rôtisse avant l'entrée de Shabbat. En notnin pat letanur im chashecha. On n'a pas le droit de mettre du pain à cuire au four juste avant l'entrée de Shabbat. Velo harara al gabe gechalim, ni une galette sur les braises. Et là, kedeishi yikremu paneam mi beodium, sauf s'il y a le temps pour que la face du pain ou de la galette durcisse avant l'entrée de Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Kedeshi Ikrom Hatarton Shela, Rabbi Eliezer dit qu'on a le droit que si le dessous de la galette ou du pain durcit avant Shabbat. Meshalchelin est à Pesar Betanur Imchashecha, on a le droit de faire descendre le sacrifice du Pesar qu'il fallait rôtir entier dans le four juste avant l'entrée de Shabbat. Alors ici, il y a une autorisation particulière pour le sacrifice du Pessah qui était fait en groupe, et on considère que ce groupe fait très attention, puisque maintenant il faut s'occuper du sacrifice de Pessah qui a beaucoup de lois. Alors ils feront aussi attention à ne pas attiser les braises de ce four pour faire cuire le sacrifice de Pessah plus vite. Alors c'est une autorisation particulière pour ceux qui font le sacrifice de Pessah. Umarizin netaur bemdorat bet hamoked. Et on a le droit de faire prendre le feu dans le foyer de Bet Hamoked. C'était un endroit au Bet Hamikdash, au temple de Jérusalem, puisque les Kohanim faisaient le service pieds nus. On est obligé de faire le service au temple pieds nus. Il faut que rien ne fasse écran entre les pieds des Kohanim et le sol, puisqu'il faisait souvent très froid. Ils devaient aller se réchauffer dans une chambre spéciale qui était nommée Bet Hamoked. Alors, on a le droit d'allumer un feu là-bas juste avant Shabbat. On ne craint pas qu'ils n'attiseront le feu après pour qu'ils prennent mieux pendant Shabbat. C'est une autorisation spéciale pour le Bet Hamikdash, comme on verra que les Kohanim font particulièrement attention aux lois.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.